Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Air Divois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes en 107.5 ou en podcast aussi sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, enfin par téléphone, aujourd'hui nous sommes en compagnie de monsieur Sébastien Pigagnol. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le directeur du Festival de la Paille et vous êtes au téléphone avec nous pour nous parler d'un des articles du projet de loi Sécurité Globale, en particulier l'article 25 qui permettrait aux forces de l'ordre, que ce soit des policiers ou des gendarmes, en dehors de leurs horaires de service, soient dotés de leurs armes, et ce dans les lieux où les établissements recevront du public. Ce qui lève quand même un tollé au niveau du syndicat des musiques actuelles. Et donc, est-ce que vous pouvez nous proposer un petit peu la teneur de ce que vous réclamez vous-même ?
Bah écoutez, nous, à travers donc, notre syndicat, le syndicat des musiques actuelles, le SMA, mais il y a d'autres organisations qui sont joints à cet appel, tous les syndicats et puis j'ai envie de dire tous les organisateurs de festivals, tous les lieux culturels qui reçoivent du public et des concerts sont vent debout contre cette loi. Donc pour rappel, suite aux attentats de 2015 au Bataclan, le port d'armes des forces de l'ordre hors service a été autorisé. Il y avait un droit opposable qui permettait aux responsables, aux directeurs d'établissement et des ERP en général, donc de refuser l'entrée à personne qui était armée hors service. Or, cette loi de sécurité globale, et notamment l'article 25, abroge ce droit opposable. Et donc, aujourd'hui, nous serions obligés d'accueillir des forces de l'ordre hors service qui voudraient rentrer avec leurs armes. Et ça, nous, on est totalement contre pour beaucoup, beaucoup de raisons. Il y a notamment énormément de risques, des risques de falsification de cartes de police, pas forcément former les agents de sécurité non plus pour voir qui a une carte de sécurité de police falsifiée ou non. Il peut y avoir des mouvements de foule si l'arme elle est à vue de certaines personnes sans forcément qu'il y ait volonté de s'en servir. Il y a des risques, s'il y a une consommation d'alcool ou par ces agents de service. Enfin, il y a énormément de risques. On pense que plus il y a d'armes, plus il peut y avoir de violence. Et il y a un gros travail qui est mené en amont lors de l'organisation de nos événements avec la sous-préfecture, avec les forces de l'ordre. Et on pense que c'est totalement contraire à ce qu'on fait depuis des années, c'est-à-dire contrôler ces entrées d'armes à l'entrée.
Cette autorisation du port d'armes, comme vous le dites, émane justement des événements du Bataclan en 2015, et ce, dans un état d'urgence. À l'heure actuelle, nous sommes toujours en état d'urgence.
Oui, nous sommes en état d'urgence. Néanmoins, nous pensons que la violence ne peut pas se régler avec la violence. Plus d'armes, dans toutes les études et dans tous les pays, montrent que plus il y a d'armes en circulation, plus il y a de crimes et plus il y a de violence. Toutes les études le montrent, même aux États-Unis, il faut savoir que mon pays qui a énormément montré du doigt pour le port d'armes, même aux États-Unis, les policiers n'auraient pas autant de droits de rentrer dans les ERP. Donc, encore une fois, ça concernait les festivals, les salles de concert, mais tous les ERP, donc les écoles, des mairies, des collèges, des hôpitaux, c'est légiférer le port d'armes dans notre société, et c'est aussi une vision de la société que nous ne voulons pas.
Il y a également les établissements de plein air, comme les stades, et divers lieux d'accueil public, hippodromes, par exemple. Et justement, le Festival de la Paille, lui, rentre dans quelle catégorie ?
Donc on a des ERP PA, comme ils appellent ça, c'est des ERP plein air, c'est des ERP temporaires. Donc quand on fait des demandes à la préfecture pour organiser nos événements, on est catégorisé comme ça. Donc, Voilà.
Et actuellement, d'avant le Covid, je parle, comment se passait justement cette entrée dans les sites ouverts au public? Est-ce qu'il y avait un contrôle quand même si les personnes étaient porteuses d'objets dangereux, par exemple?
Bien sûr, il y a des contrôles, il y a des fouilles de sacs, il y a des fouilles sur les personnes, des détecteurs. Voilà, aujourd'hui, la sécurité, elle se fait en amont, elle se prépare avec les forces de l'ordre, la sous-préfecture, et puis avant l'entrée du festival. Aujourd'hui, dans un festival comme le nôtre, les forces de l'ordre, en service, qui étaient en uniforme, ne rentrent même jamais dans le festival armé. Elles restent à l'extérieur. Voilà. Le festival en lui-même, c'est un lieu de fête où les gens, ils chantent, ils dansent, ils se bousculent, ils rigolent, ils sautent. Et c'est totalement antinomique de pouvoir faire rentrer une arme dans des lieux comme ça. Encore une fois, sans même avoir l'intention de s'en servir, il y a trop de risques qui puissent en découler.
Vous-même êtes un festival assez conséquent, puisque sur 2 journées, vous recevez 24 000 personnes. Comment se passe justement ça nécessite une réelle organisation de sécurisation du site avant l'accueil du public?
Oui, bien entendu. Il y a un gros travail qui est fait, encore une fois, avec les forces de l'ordre. Le site est vidé avant l'ouverture des portes, des bénévoles, enfin de tout le monde. Il y a des gendarmes, il y a des gens qui fouillent, qui regardent qu'il n'y a pas d'objets mal intentionnés qui étaient déposés. Puis voilà, il y a une ronde qui est faite tout autour du festival avec soit la gendarmerie. Il y a eu quelques années, enfin pendant 2 ans de suite aussi, l'opération Sentinelle avec les militaires qui venaient en renfort. Donc il y a un gros travail qui est fait en amont du festival, avant l'entrée. Mais après, voilà, il faut que l'enceinte du festival, après, reste vraiment un lieu de fête, un lieu d'échange, et pas un lieu où des armes puissent circuler. Et encore une fois, sans forcément avoir la mauvaise intention de s'en servir, c'est pas un troisième intention, une force de l'ordre, loin de là. Et d'ailleurs, même eux, on peut se poser la question de les autoriser à avoir leur arme hors service. Ça pose la question du temps de repos sur des métiers où ils sont déjà fortement impactés par tout ce qui se passe en ce moment, avec peu de congés, des heures supplémentaires. On leur demanderait éventuellement encore de porter leur arme hors service. Ça nous pose vraiment un énorme problème, au niveau de la vision de la société.
Ce projet de loi sécurité globale a eu l'accord des députés et puis ensuite des sénateurs. Et là, il y a eu un recours devant le Conseil constitutionnel qui émane de 87 députés apparentés plutôt à gauche. Qu'en est-il de cette consultation qui devait prendre effet au 21 avril?
Alors du coup, bon, c'est repassé du coup en deuxième lecture, à l'Assemblée nationale, sénateur, ça a été validé par les députés donc il y a quelques temps, et du coup, il y a un dépôt qui a été fait là devant le Conseil constitutionnel, donc qui est porté par nombre de députés, de sénateurs également, et puis qui est poussé par nombre de syndicats. Donc écoutez, là je ne sais pas exactement ce qu'il en est, je crois qu'il n'y a encore pas le résultat, mais on espère en tout cas l'abrogation pure et simple de cet article en tout cas.
Par rapport à cette organisation de ce festival, vous allez relancer d'ailleurs cette année une édition, malgré les contraintes. Est-ce que vous êtes, il y a déjà une prise en compte de cette loi si elle est adoptée?
Alors, écoutez, malheureusement, la situation fait que nous, on est vraiment en stand-by par rapport à l'organisation du festival. On ne sait encore pas si le festival aura lieu. Clairement, vu les événements, vu la crise sanitaire, le festival n'aura pas lieu, en tout cas dans sa configuration habituelle, ça c'est une certitude. 12 000 personnes debout, c'est pas possible par rapport à ce qu'est demandé aujourd'hui. Nous, on attend plus de précisions encore de la part du ministère de la Culture dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On prendra une décision définitive aux alentours de mi-mai pour savoir si on s'adapte ou pas à ce qui nous est demandé. Et à ce moment-là, on verra si on organise quelque chose avec la préfecture, comment on s'adapte à ces nouvelles lois. Mais là, on est vraiment stand-by. Et voilà, encore une fois, c'est une loi qui nous tombe dessus, en plus de tout ce qui se passe, et qui est assez, qui met un petit peu en colère le milieu de la culture, parce qu'on a l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, quand on organise un festival, notre ministère de tutelle, c'est plus le ministère de l'Intérieur plutôt que le ministère de la Culture, et ça commence à être dérangeant.
D'ailleurs, le syndicat des musiques actuelles représente toutes sortes d'organisations musicales ou de festivals. À partir de quand peut-on être adhérent à ce syndicat ?
C'est un syndicat c'est un syndicat d'employeurs, c'est-à-dire qu'il faut que la structure soit employeuse. Donc ça peut être une association, une entreprise, ça peut être un syndicat, donc ça peut être des festivals, ça peut être, il y a des producteurs phonographiques, il y a des éditeurs, il y a des salles de concert, il y a des écoles de musique. Enfin, c'est un syndicat qui est vraiment multi-activité et qui défend les petites structures, notamment plus les structures associatives, avec quand même des jauges. Les gros festivals sont présentés dans d'autres syndicats plutôt. Il y a quelques gros festivals avec nous, comme le Cabaret Vert, des événements comme ça. Mais c'est multi-activité, vraiment, tout ce qui concerne les musiques actuelles.
Quelles sont les représentations justement qui se sont mises aussi en avant contre ce projet d'article de loi concernant le port d'armes ?
Il y a France Festival, il y a la Fédé Lima, il y a deux concerts, il y a Scène Publique, il y a Technopole, Lufisque, Zone Franche, Profédim, il y a un paquet d'organisations qui s'y sont associées en tout cas. Dans notre milieu, c'est tout le monde vent debout contre cette loi.
Il y a le SMAC 07 aussi à Nounay, hein, actuellement.
Il y a beaucoup de toutes les structures qui sont adhérentes de toutes ces structures, c'est ça.
Et donc, vous avez recueilli leurs réactions à toutes ces organisations pour remonter cette désapprobation vis-à-vis de cet article ?
Ah oui, toutes les. Comment il y a eu. Voilà, toute une campagne qui a été lancée par le SMA, hein, bien entendu. Mais il y a eu des appels aux sénateurs, aux élus notamment qui devait voter contre cette loi. Et puis une campagne de presse qui, malheureusement, n'a pas eu l'effet escompté, nous pensons, par rapport à la dangerosité de cette loi, de cet article.
D'ailleurs, le soutien du ministère de la Culture, qu'en est-il vis-à-vis de ce projet de loi, s'il existe ? Et est-ce que vous avez des choses à dire, justement, sur le ministère de la Culture et son inaction, je dirais ?
Le ministère de la Culture suit ce que dit le gouvernement. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu déçu de la position du gouvernement en général, qui, en gros, le rapporteur de la loi et du gouvernement sont intervenus en séance pour affirmer que la violence permettait d'enrayer la violence. Et ça, c'est quelque chose que nous ne partageons pas et que nous ne cautionnons pas.
Pour revenir sur le Bataclan, parce qu'il y avait un propos tenu par un ancien policier, le député Jean-Michel Fauvergue, qui disait que ce jour-là, il y avait trois policiers dans la salle du Bataclan et qu'ils n'avaient pas d'armes sur eux, donc parce qu'à l'époque, l'arme de service était interdite. Qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce que franchement, ça peut modifier des choses, que des armes soient présentes ou pas dans un établissement, quand une volonté veut absolument provoquer un carnage ?
Malheureusement, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué de répondre à cette question. J'ai pas les compétences aujourd'hui, moi, nécessaires, pour y répondre. Certains diront oui, d'autres que non. Justement, il y a deux visions qui s'opposent. Nous, nous défendons celle où les armes, n'ont rien à faire dans des lieux de fête. Tout doit être fait en amont. Tout doit être fait en amont, de la préparation, de la prévention. Voilà.
Ça nécessiterait aussi une matérialisation d'un lieu, que ce soit en externe, de manière à ne pas pouvoir introduire en cachette des armes. Pour l'organisation, c'est aussi un travail supplémentaire pour prévenir ce genre de problème ? Que ce soit financier.
Comme nous, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, nous c'est déjà fait. Notre site, il est barriéré, il y a des barrières de 2 mètres de haut qui sont attachées, les gens ne peuvent pas rentrer, c'est filtré. ce travail est déjà fait par bon nombre et par toutes les organisations, en tout cas de festivals en plein air. Donc justement, c'est un peu marché sur tout le travail qui est fait depuis des années par les organisations plus, et les pouvoirs publics.
Et justement, est-ce que c'est un moyen aussi pour le pouvoir ou l'État de réduire encore plus l'expression dans la mesure où, par exemple, un festival ne répond pas aux exigences de sécurité édictées par l'État ?
Quand on organise notre événement, on dépose un gros dossier en sous-préfecture au moins 2 mois avant, on les rencontre plusieurs fois. Il y a vraiment un échange avec eux, avec les forces de l'ordre, avec les pompiers, avec beaucoup de gens, pour qu'on arrive le jour J, que tout soit prêt. Clairement, s'il y avait une défaillance, ils ne nous autoriseraient pas à ouvrir notre événement. Donc, c'est le cas pour tout le monde. Donc, les exigences sont déjà quand même énormes. Donc, et respectées dans 99% des cas.
Qu'est-ce que serait la réaction du syndicat je ne sais pas si vous pourriez répondre, mais de manière à pouvoir répondre justement à cette loi, si elle est adoptée, ça vous imposerait quoi ?
Ben, ça nous impose de pouvoir reconnaître aux entrées, de savoir si telle ou telle personne peut rentrer avec son arme ou pas, c'est-à-dire si elle est force de l'ordre, si elle est autorisée, si... Et ça implique, encore une fois, je ne peux pas répondre à cette question maintenant parce qu'on n'a pas, on n'a encore pas étudié dans la en profondeur, mais oui, ça impose de s'adapter à ça et on ne sait encore pas comment le faire. Ouais.
Pour ce qui est de l'organisation du Festival de la Paille, vous dites qu'elle est relativement impactée pour cette année encore. Qu'est-ce que vous ressentez vous-même au sein de l'organisation sur cette période entre Covid et puis cette montée d'insécurité soi-disant par les médias et puis aussi relayée par le Parlement puisqu'il y a ce projet de loi sécurité globale?
Ben, nous, on ressent beaucoup de mélange de tout, hein, de colère, de frustration, de peine. Alors, on comprend, on est dans une situation sanitaire qu'on ne nie pas. Hein, on le sait, la situation est compliquée par rapport à beaucoup de corps de métier. Hein, on pense notamment, forcément, aux soignants et à toutes ces personnes qui sont débordées depuis plusieurs mois et ça risque de durer. Néanmoins, on pense que en général, le milieu de la culture est un peu mis de côté. Et le fait d'être considéré comme non essentiel, depuis de nombreux mois, peine un petit peu toute la profession et la colère commence à gronder. On sait bien qu'au jour d'aujourd'hui, organiser un événement de 12 000 personnes comme nous debout, c'est compliqué, voire impossible. C'est compliqué comme situation parce que d'un côté, encore une fois, l'État joue son rôle, il y a des aides, il y a des subventions qui fait que on tient le coup. Mais les gens, ils ont juste envie, les gens ont envie de retourner voir des concerts, du théâtre, de la musique, du cinéma. Et puis, nous, on a les moyens et l'envie de s'adapter. Donc, on aimerait beaucoup, beaucoup pouvoir le faire.
Est-ce que depuis le syndicat des musiques actuelles, il y a aussi une crainte au niveau des petites organisations, de festivals, de villages, par exemple, ou... Est-ce qu'il y a une crainte justement de surenchère de la sécurisation au point de pas pouvoir se faire ?
Encore une fois, moi je peux parler au nom de ma structure, je peux pas parler au nom du syndicat des musiques actuelles. Hein. Je suis adhérent, je suis pas porte-parole.
D'accord, c'était pour justement, j'avais précisé, ouais. C'est au niveau du syndicat. Et comme vous êtes simplement adhérent, hein, vous n'êtes pas agissant au sein de l'organisation.
Non.
D'accord.
Mais à titre personnel, oui, c'est compliqué pour toutes les petites structures, les petites associations, mais c'est compliqué pour tout le monde en ce moment. Donc. Je pense que c'est plus le manque de visibilité à moyen terme qui est usant. En fait.
Justement, j'avais une question. Quelle serait la réaction du milieu du spectacle si cette application de loi était effective, concrètement ?
Concrètement, je pense qu'on va tout faire pour que... on va être jusqu'au... moi, en tout cas, j'ai envie d'être jusqu'au boutiste pour que cet article ne puisse pas être appliqué. Après, jusqu'où on peut aller, je ne sais pas. Ça fera vraiment un crève-cœur si on est obligé de... d'appliquer cet article, en tout cas. C'est totalement contraire à nos valeurs.
Voilà. Tout à l'heure, vous parliez justement du cas des États-Unis, hein, très connu pour le port d'armes généralisé, mais qui n'autorise pas forcément justement les policiers à être armés au sein d'établissements recevant du public. Ça veut dire qu'il y aurait peut-être une possibilité de négociation avec les organisations de tutelle, de manière à pouvoir peut-être assouplir cet article.
Écoutez, c'est possible, c'est pas une... Enfin, peut-être, pourquoi pas...
Quand vous avez des échanges avec la préfecture, par exemple, il y a peut-être cet aspect-là à discuter ou à négocier.
C'est une possibilité. Après, est-ce qu'ils iront contre la loi, je sais pas, ou ils l'adapteront, je suis pas persuadé, en tout cas.
On peut peut-être indiquer le Festival de la Paille, hein, sur Internet, et puis...
www.festivalpaille.fr, donc c'est tous les ans fin juillet à Métabier dans le Doubs, dans les montagnes du Jura.
Eh bien, Sébastien Pigagnol, je vous remercie de nous avoir donné un peu de votre temps, en espérant de vous entendre une autre fois pour de meilleures nouvelles. Bonne soirée. Au revoir.
Merci, au revoir.